Je suis avec Laurence Deonna qui nous accueille chez nous dans son antre. Bonjour Laurence Deonna.
Bonjour.
Alors, quel plaisir de vous rencontrer, quel honneur surtout. Vous êtes une femme emblématique.
Ah et, bon?
Mais oui.
Oh là là.
Et d'ailleurs, Nasser Bakhti, qui vous consacre son film qui sort maintenant sur les écrans, Laurence Deonna, libre, oui. Dit déjà dans le titre que vous êtes libre. Vous étiez à la fois pionnière, fonceuse, frondeuse. Vous avez osé vous libérer des carcans calvinistes de votre éducation et de votre famille qui était de la haute bourgeoisie genevoise. Parlez-nous un petit peu de cette éducation et de la famille de laquelle vous venez.
Eh bien, je viens d'une famille, comme vous dites, très, très classique, de la haute bourgeoisie protestante, avec les défauts et les qualités des protestants. Une certaine rigidité et aussi ce qui m'a beaucoup manqué, c'est l'amour, l'affection. Ils sont extrêmement réservés et c'est pas facile à vivre. Et moi, j'en ai souffert parce que je suis quelqu'un de très affectueux, tactile, sensible, et voilà. Et puis un jour, ben voilà, ma vie a changé quand j'ai commencé à ruer vraiment dans les brancards. J'ai pas fini mon bac et j'ai été dans une magnifique école d'art en Angleterre.
À Bath.
À Bath Academy of Art, exactly.
Thank you very much.
J'ai bien fait votre travail.
J'ai bien étudié.
C'était magnifique.
Déjà, la ville est belle.
La ville est magnifique, exactement. La ville est magnifique.
Avec des crescents, là.
C'était absolument, c'est ce style géorgien, absolument superbe. Et puis, de là, mes parents ont trouvé que j'étais un peu loin. Alors, on m'a ramené à la maison dans un de ces avions à hélice qu'il y en avait encore dans les années 50. Et puis, j'avais tellement grossi parce que c'était tellement mauvais ce qu'on montait là-bas que je mangeais tout le temps les tartines que m'envoyait ma mère et du chocolat. Je ne pouvais même plus mettre mes jartelles, mais quand je me dis le mot jartelle, les jeunes filles d'aujourd'hui savent même plus ce que c'est. Et puis, alors on m'a envoyé à Paris, et je n'ai pas du tout aimé Paris.
L'école des Beaux-Arts.
L'école des Beaux-Arts de Paris, la Victoire de Samothrace, avec ou sans jambes. On avait déjà vu des tas chez mon grand-père, qui était un helléniste mondialement connu. Donc, j'étais un peu lasse de tout ce qui était grec. J'étais un peu lasse de tout ce qui était grec, et puis j'étais lasse de mon mari.
Vous étiez mariée.
Et j'étais mariée pendant 2 ans, et en fait, c'est vraiment une mesure pour rien. Et c'était une époque, les années 70, ou 60, pardon, excusez-moi, où les trouver du travail, c'était toc.
Impossible, si vous voulez.
C'était facile, on ouvrait les journaux. C'était le début de l'économie après la guerre qui se développait.
Les Trente Glorieuses.
Absolument, exactement. Et donc j'ai ouvert la Tribune de Genève, qui d'ailleurs existe toujours, contrairement au Journal de Genève pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Et j'ai vu qu'on cherchait une assistante pour une galerie d'art moderne. Comme moi, j'arrivais d'Angleterre où j'avais fait ces études. Eh bien, j'ai trouvé que c'était absolument parfait. J'étais me présentée, j'ai dit, je suis polyglotte, je connais très bien la peinture, et puis je suis pas trop moche, j'avais 23 ans. Et puis le propriétaire de la galerie m'a tout de suite dit qu'il m'engageait.
On peut le nommer,
mais avec
Yann
une...
Crugier.
Hein?
On peut le nommer.
Oui.
Yann Crugier.
Oui. Yann Crugier, exactement. Et j'ai trouvé, moi, que ce monsieur, il m'engageait vraiment, quasiment sans poser aucune question. La seule chose que je lui ai dit, c'est que s'il m'engageait, il fallait prendre mon chien. Alors il a dit, il est comment ce chien? Alors j'ai dit, bon, il est comme ça. Non, enfin, comme ça. Non, écoutez, à peu près comme ça.
Donc, pour les auditeurs, on précise que vous êtes parti
de 1 mètre au garrot.
Voilà, vous êtes parti de 20 cm pour monter à 1 mètre au garrot.
Voilà. Alors, il ouvrait des yeux écarquillés, mais il est comme il m'aimait bien. Et puis, qu'il aimait bien le chien, qui d'ailleurs puait, parce qu'il était toujours dit, il allait se promener dans les restaurants du quartier. Et il avait de la soupe plein les moustaches. Ferme la parenthèse. Et puis un jour, Yann Crugier m'a dit, venez dans mon bureau. Et je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai encore vendu un Picasso à 2,50 €. J'ai fait une gaffe, il va me tirer les oreilles. Eh bien, pas du tout, ce n'était pas ça du tout. Il a sorti de sa poche un porte-photographique. De ces vieux trucs dont le plastique est jaunasse. On voyait qu'il était vieux. Et il l'ouvre, ou l'on l'ouvre, et je regarde, et c'est moi. Effectivement, je dis, mais c'est moi. Où est-ce que vous avez trouvé ces photos? C'est moi, mais je ne suis pas possible. Et il me dit, c'est pas vous, c'est... Donc, c'était la femme que j'aimais à Varsovie. Bon, ils étaient juste tous les deux.
Ils étaient dans le ghetto.
Et elle a été tuée par les nazis devant ses yeux. Donc, entre lui et moi, il y avait une relation extrêmement ambiguë, vu les circonstances, les souvenirs. Mais... je crois que sans lui, je n'aurais pas pris le chemin que j'ai pris. Parce que j'étais élevée dans une famille conventionnelle où on nous apprenait que la vie était la raison, R majuscule. Or, je vivais avec un homme qui était l'incarnation du contraire, de la folie.
La fantaisie.
Et là, ça m'a... Je ne me suis pas rendu compte sur le moment que ça me changeait. Mais je commençais à beaucoup réfléchir. Et puis, il me disait toujours que j'étais momentanément dans cette galerie, mais que je n'étais pas faite pour ça, que j'avais un esprit aventureux. Et puis, surtout... cette idée qu'on m'avait vraiment, on m'avait arnaqué en me disant que le monde était basé sur la raison. On le voit ce jour avec l'Ukraine, que c'est vraiment pas le cas. Donc ça m'a donné la force de m'en aller avec le photographe de la galerie, qui s'appelait Raymond Asseo, qui était juif. Très juif, tellement juif que il avait un nez immense, faut dire. Il disait que même les tasses, les à café étaient antisémites. Il était très drôle, très intelligent et un excellent photographe. Et il m'a proposé, écoute, la guerre venait d'éclater entre les Arabes et Israël en 67. Et il me dit... tiens, moi je pourrais aller du côté israélien du conflit, puis toi du côté arabe. Puis après, on ferait un reportage à deux voix. Moi, je n'avais jamais écrit une ligne, même pas le bal des pompiers. Mais je suis entrée. L'aventure m'attendait, je veux dire. Elle me tendait les bras et j'ai sauté dans ses bras. Je veux dire, j'étais prête à changer de vie.
Sans avoir une grande connaissance du Moyen-Orient.
Je n'avais rien. Je savais rien du tout. Bon, je savais qu'il y avait des Arabes, et quand même, vu que je vivais avec Ayane Frigé, qui était, lui, rescapé. Mais à part ça... Et comment y aller? Avec quoi? Avec quel argent? Avec carte de presse? Sans carte de presse? Alors, je suis allée chez le Middle East Airlines Office à Genève. J'ai demandé à voir le directeur et je lui ai dit, écoutez, vos avions sont vides parce que c'est la guerre. Alors pourquoi vous ne me donnez pas une place? Ça ne change rien. Et lui m'a dit en bon libanais, d'accord, mais moi, qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Je lui ai dit, vous gagnez une bonne conscience.
Ce qui est important pour un musulman aussi.
Mais c'est un chrétien.
Ah, un chrétien, mais ça aussi est important.
C'est un chrétien. Alors, j'ai eu un billet, je suis arrivée à Amman, complètement dépaysée et complètement amoureuse de ce monde. Je ne sais pas si je serai aujourd'hui, il a tellement changé. Et j'ai été très cocolée, parce que d'abord, la plupart des journalistes étaient du côté israélien. Il n'y avait presque personne de côté arabe. Et puis, ils ont cru peut-être que je venais de New York Times, alors que je n'avais jamais rien écrit.
C'était le Geneva Times.
Oui, c'est ça. Oui. Mais, absolument. Et puis, on m'a installé dans un hôtel, et le lendemain, on m'a emmené sur le front, et on m'a emmené dans les hôpitaux. Et là, une nouvelle étape dans ma vie, c'est que on m'a vraiment montré immédiatement la piste des horreurs, c'est les brûlés au napalm, qu'on voit dans le film d'ailleurs. Et ce n'est pas les pires. J'ai fait des photos. J'avais acheté un appareil de photo dont je ne savais pas me servir. Mais là, c'était en noir et blanc, c'était pas compliqué. Mais c'était atroce. Et quand je suis rentrée à Genève, j'ai montré ces photos au rédacteur en chef du journal de Genève, Bernard Béguin, qui était d'ailleurs un excellent rédacteur en chef et un homme cultivé et tolérant. Et je lui montre ces photos et il me dit, c'est beau la guerre, ma petite, hein? J'ai dit oui. Alors vous allez les imprimer. Quand est-ce que vous les mettez en page? Il me dit, mais on ne va pas les montrer. Pourquoi on ne va pas les montrer? Dit la brebis complètement innocente. Et on ne peut pas les montrer parce que ils ne sont pas fichés, montrés. Il n'y a rien qui me prouve que ces photos ne sont pas de la propagande. Ma petite, apprenez que quand vous faites ce genre de reportage, là, par exemple, vous auriez dû prendre une affiche en arabe derrière pour situer.
Et légitimer.
Et légitimer, exactement. Oui. Remarquez qu'aujourd'hui... C'est pas compliqué, on fait dire n'importe quoi, n'importe qui.
On peut truquer les images.
On peut truquer toutes les images, les voix, tout. Mais à cette époque-là, on en était encore là. Bon, ben, c'était une leçon pour moi. Et puis après, il a pris mes articles. Et quand je les relis... J'ai une enfant de 12 ans, et le soleil se couche sur la mosquée bleue. Enfin, c'est... j'ai fait des progrès quand même. Mais...
C'était un peu le baptême du feu, et puis quel baptême du feu pendant la guerre des six jours,
hein? Ah oui, c'était le baptême du feu, et pas seulement le feu sur moi, c'est ce que j'ai vu, le feu, je l'ai vu. Et puis, c'était pas facile du tout d'entrer en Syrie, parce que la Syrie était fermée, parce qu'elle avait perdu la guerre, et qu'elle était vraiment fermée comme une huître, et aucun journaliste ne pouvait pénétrer. Quelques-uns étaient retournés à leur rédaction en Europe, d'autres étaient... à l'hôtel Saint-Georges, à se barboter dans la piscine en attendant. Et moi, je me suis dit, si, je veux. Maintenant, j'avais compris que j'avais trouvé mon chemin de Damas, c'est le cas de le dire. Mon instinct m'avait dit, voilà, tu es là. Tu es là pour témoigner. Tu n'es pas là pour faire du théâtre comme ça m'était arrivé. Tu es là pour témoigner. Alors, comment aller ?
En tant que femme, en plus.
En tant que femme, en plus. En Syrie. Donc, je vais à Beyrouth. Et toute la journée, je barbote dans la mer, je parle aux gens. Le soir, je vais dans les dancing, les quacks du roi, ça s'appelait. Et puis toujours, les gens disaient, oui, on ne peut pas aller en Syrie. Ben, ce n'est pas avec ça que j'allais faire un scoop. Donc finalement, je me suis assise un peu désespérée sur la place des canons, qui n'existe, je ne sais pas s'il existe encore, dans un petit bistrot. Et à côté de moi, de ma table, il y avait une autre table où il y avait deux Libanais qui parlaient. Ils parlaient, comme la plupart des Libanais un peu éduqués, à moitié en français. Et j'ai vu qu'ils parlaient de la Syrie. Donc, alors là, ça m'a titillée. Et je suis allée vers eux et je leur ai dit, est-ce que vous ne voudriez pas m'accompagner en Syrie ? Ce à quoi ils m'ont regardé vraiment comme la nullité parfaite. Ce que j'étais, je ne savais rien. Il me dit, mais vous ne savez pas que les Soviétiques sont là-bas Je dis, ah oui, je sais bien, mais je vais quand même y aller, etc. Bon, rien à faire. J'ai dit, vous ne connaissez personne qui voudrait... Non. Et il me laisse toute seule devant ma petite table. Quand le miracle surgit, c'est deux chevaux parqués sur la place, toute poussiéreuse, avec la plaque de Paris, 75, française. C'est rarissime de voir ça là-bas. Alors j'étais là-bas, j'ai mis un petit papier sur le pare-brise et en disant, voilà mon numéro de téléphone. Ce n'était pas un portable à l'époque, il n'y en avait pas. C'était le centre protestant pour les étudiants. Voilà. Et comme ils étaient tous en vacances, c'était l'été, on m'a dit, oui, vous pouvez coucher là, etc. Bon, et pour tout make a long story short, finalement, ils ont accepté, ces deux étudiants français, c'était deux étudiants, un blond, un beurbe et un brun barbu. Et nous voilà partis vers la frontière syrienne. Nous arrivons devant la frontière, et je dois dire que là... Ce qu'on m'avait dit était absolument authentique, impossible de passer. Il y avait des tanks alignés les uns à côté des autres et qui bougeaient la route, c'était impossible de passer. Alors, je me suis dit, j'ai quand même essayé, je suis allée vers le type qui avait le plus de décoration. Je me disais que c'était lui. Mais le problème, comment vous voulez parler ? Alors, j'ai parlé français, comprenais rien. L'anglais, comprenais rien. L'allemand, comprenais rien. L'italien, comprenais rien. Et tout à coup, j'ai parlé espagnol. Et il y a un jeune soldat qui écoutait la conversation qui me dit en espagnol, « Tu parles espagnol ?» Je dis oui. Moi, je suis un Syrien d'Argentine. Et je suis venue voir mes grands-parents pour les vacances et ils m'ont foutu dans l'armée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai dit, écoute, ce que tu peux faire pour moi, c'est dire aux tankistes de mettre leur marche arrière, de s'écarter et de laisser passer notre petite voiture. Et les tankistes se marraient et le chef constellé de décoration.
Il ne disait rien.
Il ne disait rien, il regardait ailleurs. Très gentil. Et tout s'est refermé. Et immédiatement, le mur de métal s'est refermé derrière.
Sur la deux chevaux. Après le passage de la deux chevaux.
Après le passage de la deux chevaux, nous avons monté la montagne et redescendu sur Damas. Et nous voilà arrivés en plein défilé militaire. Que faire ? Entre un tank et un véhicule militaire. On s'est mis là. Puis tout à coup, je me suis souvenu que De Gaulle venait de déclarer qu'il faisait un embargo sur les armes pour punir Israël. qu'il ne portait pas dans son cœur, visiblement. Alors, je me suis mis... Les chevaux, on peut se mettre sur le... Sur le... Comment est-ce qu'on dit ? Sur le siège arrière. Ouvrir le haut, ouvrir le toit. Et j'étais là. Vive la France ! Vive De Gaulle ! Et tout le monde répondait, toute la foule arabe. Vive De Gaulle ! Vive la France !
Repris en cœur, en
fait. Repris en cœur, c'est le mot. Repris en cœur. Mais il y a un moment, on est arrivé sous la tribune. Alors là, il y avait les services secrets, il avait ses bodyguards. Enfin, vous savez, vous connaissez ces pays, vous voyez l'ambiance. Tu vois ce petit rat qui passe là. Alors, j'ai dit aux blonds et aux bruns, je leur ai dit, prenez vite cette petite... rue perpendiculaire, il faut qu'on file, et on a filé. Mais la nuit était tombée, il fallait trouver un gîte, mais on n'avait pas un rond, et un monsieur passe, et on lui dit, où est-ce qu'il y a un hôtel ? Il dit, là, et c'était un bordel. Alors, nous, voilà, prochain épisode, le bordel de Damas.
Avec un barbu et un imberbe.
Et un imberbe. Voilà. Qui était là comme il me gardait.
J'espère pour vous, dans le bordel.
Non, justement, c'est pour ça qu'ils ont été très, très gentils. Ils me gardaient. Ils me gardaient, la porte était ouverte, et ils étaient là, et ils s'étaient couchés sur un... Je crois que sur un... Je sais pas. Un tapis, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas... Il me protégeait. Le matin, quand il dormait encore, moi, je me suis levée, je suis allée au ministère de l'Information, où j'ai eu l'immense volupté de voir qu'aucun journaliste n'avait pu pénétrer en Syrie. Donc, j'étais toute contente. On me dirige vers le bureau du directeur de l'Information, avec qui j'ai appris une fois pour toutes, première chose, c'est que les ministères de l'information sont faits pour ne pas donner d'informations. Sinon, des informations tellement vagues ou tellement tronquées...
Édulcorées.
Mais je suis tombée sur un monsieur qui me dit... Et vous parlez français ? Oui. Ah, moi j'adore Ionesco. Ah bon ? La cantatrice chauve, vous connaissez ? Je dis oui. Ah, c'est merveilleux de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir parler autre chose de ces politicards. Moi, j'aime la poésie et puis le surréalisme. Mais la situation était vraiment surréaliste en soi.
Ubuesque.
Alors je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas venue ici pour vous écouter la cantatrice chauve. J'aimerais des renseignements sur la situation de la Syrie maintenant, qui s'est refermée après sa défaite. Ah, ces choses-là, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime la poésie. Bon, j'ai compris que c'était pas vrai. C'était une façon pour lui de se débarrasser de moi. Mais moi, je suis retournée vers le type à l'entrée. J'ai dit qui surveillait l'entrée. J'ai dit où est-ce qu'il est le ministre lui-même. Ça, c'était le directeur de l'information. Ça, c'est l'autre. Et finalement, j'ai été reçue par le ministre lui-même. Et j'étais tellement gamine, mais tellement, que je lui dis, pourquoi vous avez perdu la guerre ? Parce qu'on m'a dit que vous avez des beaux armements. Bon. Et puis après, lui commence, très lyrique, à dire, oui, cette guerre, c'est atroce, parce qu'après tout, les Juifs et nous sommes frères. Et je lui ai dit, Mais oui, c'est vrai, monsieur le ministre. J'avais remarqué que vous avez le nez juif.
Du culot et de l'humour.
Le culot que j'avais.
Ça a payé ?
Non.
Non.
Ça n'a rien payé du tout. Il n'a rien dit. Il a dû se dire qu'elle est emmerdeuse. Mais quand j'y repense aujourd'hui...
C'était osé.
Il fallait oser, mais finalement, le seul ONG qui avait pu pénétrer à Damas, après la fin de la guerre, c'était le CICR. Donc, je me suis réfugiée chez mes compatriotes. Grâce à eux, j'ai eu énormément d'informations inédites. Et donc, j'ai promis que... Maintenant, je peux le dire. J'ai promis de ne jamais dire d'où elle venait. Et je suis rentrée comme un chef avec mes deux lascars et ma petite voiture qui commençait vraiment... Je me disais, elle ne voit jamais aller jusqu'à Paris. Elle va tomber en ruine. Et nous voilà à Beyrouth. Et là, je cours à l'hôtel Saint-Georges qui était... Parce que je me souvenais qu'il y avait un journaliste du Zeit, un Allemand, qui m'avait dit « Vous êtes complètement toqué d'aller là-bas, mais si jamais vous apportez de l'information, je suis acheteur. » Et j'ai fait vraiment un scoop et j'ai bien gagné. Mais je ne l'ai pas édité, j'ai simplement de l'information brute que je lui ai donnée, c'est tout. Et quand je suis rentrée ici, mon rédacteur en chef, c'était mon premier reportage, je l'ai encore, ça s'appelait « Coup d'œil dans le camp des vaincus ». Je me souviens encore du titre. Et de là, les choses se sont tricotées, les unes dans les autres, et j'ai commencé à faire du reportage, surtout au Moyen-Orient.
Alors justement, à propos du Moyen-Orient, on va vous retrouver dans un deuxième entretien, Laurence Dionna, à tout de suite.